sereine. Viele Dinge lernen wir. Wir sehen mit in uns überall. Jesus, Herr, à jamais dans nos cœurs, un grand amour de paix, de louange. Jésus, règne, à jamais dans nos cœurs, règne d'amour de paix, de louange. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Il est digne de louange. Jésus, règne à jamais dans nos cœurs.
Règne l'amour de paix et de louange.
Jésus, règne
à jamais dans nos cœurs.
Règne l'amour de paix et de louange. Danse de joie,
comme en Israël.
Et danse de joie, danse de joie,
danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Saute
de joie, saute de joie, saute de joie,
saute de joie, ô Seigneur, toute la terre.
Tape des mains,
alléluia.
Tape des mains,
tape des mains,
tape des mains, ô Seigneur, toute la terre. Alléluia, pour le roi, alléluia, pour le roi. Chante pour lui, danse pour lui, alléluia, pour le roi. Crie de joie,
amen.
Crie de joie, crie de joie, crie de joie, ô Seigneur, toute la terre. Danse de joie, danse de joie, danse de joie, danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Saute de joie.
Amen.
Saute de joie.
Comme les mots dans une étape. Saute. Allez, Hélène. Amen.
Saute de joie, ô Seigneur, toute la terre. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Danse pour lui.
Chasse pour lui.
Alléluia pour le roi. Alléluia pour le
Yeah! Seigneur, merci. Tu nous ouvres les yeux maintenant pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi et que ta parole tombe dans un terrain bien préparé. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lirons un passage essentiel dans les épîtres de Paul, un passage que beaucoup d'entre nous connaissons par cœur, mais j'aimerais qu'on y revienne. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 17. Un verset extraordinaire qui nous montre l'étendue de l'œuvre de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voici ce que Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset a un message pour chacun d'entre nous. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous recevons beaucoup plus que le simple pardon de nos péchés. C'est déjà l'essentiel, c'est vrai. Tout commence par là. Car sans le pardon des péchés, nous ne pouvons pas aller au ciel. Le ciel est un lieu de sainteté, de pureté. Et notre péché doit être purifié pour que nous puissions contempler la face de notre Dieu. Mais il y a beaucoup plus lorsque nous recevons Christ dans notre vie. Dieu vient nous faire plusieurs cadeaux, plusieurs dons que nous ne réalisons pas toujours. Et j'aimerais qu'on voie ce matin les nombreuses bénédictions de la vie nouvelle en Christ. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, Dieu vient et nous donne plusieurs dons, plusieurs bénédictions. Si nous réalisons cela, nous aimerons davantage le Seigneur, nous le louerons encore davantage, car nous réaliserons que c'est un grand salut. La Bible nous parle d'un grand salut, pas d'un petit salut au rabais. Si nous avons un salut au rabais, nous aurons des chrétiens au rabais. L'Évangile ne nous présente pas un mini-salut qui fait de nous des mini-chrétiens. L'Évangile nous présente un grand salut qui fait de nous des chrétiens victorieux, des chrétiens avec une vision céleste. Paul disait, je n'ai point résisté à cette vision céleste. Quand Dieu lui a parlé, quand Dieu lui a révélé le plan du salut en Jésus-Christ, il n'a point résisté à cette vision céleste. Sa vie a changé. Quand nous réalisons qui est Jésus-Christ, et quel est ce grand salut que nous avons en lui, mes amis? Nous ne pouvons plus résister à cette vision céleste. Nos vies lui sont consacrées. Et nous n'avons qu'un désir de l'adorer, de l'aimer et de le servir aussi de tout notre cœur. J'ai noté ici 12 bénédictions que nous recevons lorsque nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. 12 bénédictions, 12 dons. Il faut que nous le réalisions, cela. Bien souvent, lorsqu'on entend parler des chrétiens, on a l'impression qu'ils n'ont rien du tout. C'est vrai que par nous-mêmes, nous n'avons rien. Absolument. Mais si nous sommes en Christ et si nous sommes de nouvelles créatures, nous avons un héritage. Amen. Nous avons un héritage. Dieu nous a donné des choses. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous réalisions toujours plus ce qu'il nous a donné. Première chose, premier don, première bénédiction de la nouvelle création en Christ. C'est une nouvelle vie. 1 Jean 5, verset 11. Lorsque nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous avons reçu une nouvelle vie. 1 Jean 5, verset 11 et verset 12. Voici ce que l'apôtre Jean dit. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et un autre passage, Jean chapitre 3, verset 36. C'est toujours l'apôtre Jean qui dit. Jean 3, 36. Voici ce que l'apôtre dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Lorsque nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous avons reçu une nouvelle vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie de Christ lui-même, celui qui a le Fils, à la vie. C'est une vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu faire sa demeure en nous pour que nous puissions communier avec Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas communier avec Dieu sans avoir d'abord la vie de Dieu en soi. C'est impossible. Bien souvent, nous entendons dans ce monde, et là, en cela, il y a l'influence de l'hindouisme. Parce que l'hindouisme a une grande influence maintenant dans notre société. On entend bien souvent dire, ah, si nous faisons de la méditation transcendantale, si nous faisons toutes ces choses-là, nous allons découvrir Dieu en nous. Regardez-moi ce mensonge. Comme si Dieu était au fond de nous et qu'il fallait faire de la méditation transcendantale pour aller le chercher au fond de nous-mêmes. La Bible dit que sans Christ, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Dieu n'est pas en nous par nature. Et c'est une illusion et un mensonge de croire que si nous ne sommes pas convertis à Jésus-Christ, si nous ne sommes pas de nouvelles créatures en Jésus-Christ, Dieu n'habite point en nous. Mais lorsque nous acceptons Christ, que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons abandonné tout ce qui le déshonorait, et que nous avons accepté Christ dans notre vie, alors nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons avoir communion avec Dieu, qui est Esprit. Il nous faut avoir l'Esprit de Dieu pour communier avec Dieu, qui est Esprit. N'est-ce pas vrai? Alors, nous avons reçu une nouvelle vie. Cette vie-là, c'est la vie même de Jésus en nous. Alléluia! C'est la vie éternelle. C'est une vie qui ne passera jamais, qui commence ici-bas et qui ne finira jamais. Alléluia! C'est la vie même de Dieu en nous. C'est la vie de Jésus. Est-ce que nous réalisons cela? Une nouvelle vie, une vie divine en nous, est née lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Il faut bien réaliser cela, que Christ habite maintenant en nous et que celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Nous vivons véritablement. Nous ne pouvons pas fabriquer la vie. Qui peut fabriquer la vie? Qui peut produire la vie? Qui peut engendrer la vie? Personne. Jésus seul est celui qui donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Nous avons reçu une nouvelle vie. Et c'est par cette vie-là que nous pouvons avoir communion avec Dieu. Alléluia. Et quiconque n'a pas reçu la vie du Christ en lui, en recevant Christ, il ne peut être en communion avec Dieu. C'est impossible. Cette personne est religieuse, mais n'est pas en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, qui est esprit, nous devons recevoir la vie de Dieu en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième don maintenant. Deuxième don que Dieu nous accorde lorsque nous venons à Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes une nouvelle créature. Dieu nous donne un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 26. Un nouveau cœur. Qui peut changer le cœur de quelqu'un ? Ézéchiel 36, 26. Il est dit ceci, en parlant bien sûr de la nouvelle alliance que Dieu allait établir par Jésus-Christ. Voici ce qu'il est dit. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et quand Jésus-Christ vient dans notre cœur, c'est un cœur nouveau qu'il nous donne. Amen. C'est une transplantation cardiaque spirituelle. C'est le cœur même de notre être qui est changé. C'est à la racine même que notre être est touché. Amen. Jésus lui-même a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, toutes ces mauvaises choses que l'homme peut faire. C'est pourquoi l'homme a besoin de changer de cœur. Alléluia. Il a dit dans le passage d'Ézéchiel aussi, j'enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Non seulement tu as reçu la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, mais maintenant tu as un nouveau cœur. Amen. Et ce cœur-là, c'est un cœur qui va complètement transformer toute ta vie. Tu peux changer parce que le cœur a changé. Ce n'est pas une transformation superficielle que Dieu opère. C'est d'abord la transformation de ton cœur. Amen. Et quand le cœur est changé, tout le reste changera. Mais la religion, qu'est-ce qu'elle fait? La religion, elle change toujours l'apparence de l'homme, mais pas le fond du cœur. La religion, c'est comme si, vous savez, quand il y a les mauvaises herbes, on coupe la mauvaise herbe, et puis vous retournez une semaine après, les mauvaises herbes sont toujours là, et ça repousse. Alors la religion fait ça, on enlève le mauvais, mais une semaine après, tout pousse. La religion fait cela. La religion ne va pas à la racine du mal. La religion ne peut jamais changer le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez des gens religieux qui sont toujours les mêmes. Ah, ils ont peut-être une bonne apparence, mais quand vous les connaissez vraiment, il y a des choses qui sont vraiment qui déshonore Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme religieux veut avoir une bonne apparence, mais il ne peut pas se changer lui-même. Dieu fait plus que de couper l'herbe dans notre vie. Il ne dit pas, bon, je vais couper l'herbe maintenant, et puis bah, c'est beau, maintenant tout est beau avec toi. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu va plus en profondeur que cela. Il nous donne un cœur nouveau. Alléluia. C'est un cœur de chair. Désormais, notre cœur a changé, et parce que notre cœur a changé, parce que l'Esprit de Dieu habite maintenant en nous, alors nous allons pouvoir devenir de nouvelles créatures. Beaucoup de choses vont changer en nous. Alléluia! Parce que le cœur est changé. C'est un don extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Qui peut vous donner un cœur nouveau? Personne. On peut vous donner une religion nouvelle. On peut vous donner une philosophie nouvelle. On peut vous donner beaucoup de choses, mais personne ne peut donner un cœur nouveau. Alléluia! Jésus est le seul qui change le cœur. Et lorsque quelqu'un accepte Christ comme son sauveur, il a un cœur nouveau. C'est une promesse extraordinaire. Et parce que ce cœur est nouveau, alors tout peut changer. Amen! Tout peut changer en profondeur. Les autres ne vous reconnaîtront plus. Je ne veux pas dire que ça se fait du jour au lendemain, mais il y a un changement qui s'opère. Tiens, mais tu n'es plus la même personne. On est un peu comme l'aveugle qui a été guéri et qui a dit aux autres, Autrefois, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Alléluia. Autrefois, voilà ce que j'étais. Mais maintenant, voilà ce que je suis. Lorsque Jésus a fait de nous de nouvelles créatures, il nous a donné une nouvelle vie. Son esprit vient habiter en nous. Il nous a donné un nouveau cœur. Et parce qu'il nous a donné un nouveau cœur, tout peut changer en nous. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Mais pour que ce cœur change complètement, il faut le lui donner entièrement. Amen. Je te donne mon cœur. Et c'est alors que Dieu change tout. Troisièmement, un autre don, c'est une nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, 17, Dieu nous a donné une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle création-là, c'est une nouvelle nature. C'est la nature même de Dieu qui est en nous. Vous vous rendez compte? Donc, nous ne sommes pas n'importe qui lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Cette nouvelle nature est en nous, c'est une nature divine. Et parce que cette nouvelle nature est là, alors, beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Amen. C'est très important. Une nouvelle nature. Tu as reçu la nature divine. Alléluia. Quatrièmement, un quatrième don que Dieu nous donne, c'est une nouvelle façon de penser. Ça, c'est maintenant que nous sommes au Seigneur. Notre façon de penser change. Si nous avons la nature de Dieu, si nous avons un nouveau cœur et si nous avons l'Esprit de Dieu, notre façon de penser va changer. Amen. C'est très important cela. Alors regardez ici, Éphésiens chapitre 4, verset 17 par exemple. Éphésiens 4, 17. Regardez ce qu'il est décrit. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Regardez voir. Quand nous étions inconvertis, nous marchions selon la vanité de nos pensées. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc voyez-vous, lorsque nous étions inconvertis, dans nos pensées, nous n'avions que des pensées vaines, inutiles. De vaines imaginations. Et même Colossiens chapitre 1, verset 21, nous dit encore plus ce que nous étions dans nos pensées. Colossiens 1, 21, regardez ce qu'il est écrit. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ou on pourrait traduire éloignés de Dieu, et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Regardez ici, par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Les mauvaises pensées viennent avant, parce que c'est les mauvaises pensées qui engendrent des mauvaises œuvres, n'est-ce pas vrai? Si nous n'avons que des mauvaises pensées, nous aurons automatiquement de mauvaises œuvres qui suivront. Et maintenant, voyez-vous, il y a un combat. Nous étions ennemis dans nos pensées. Avant d'être au Seigneur, nos pensées se dressaient contre Dieu. Nous faisions ce que nous voulons, nous étions éloignés par nos pensées. Et Dieu maintenant nous dit une fois que nous sommes chrétiens, il nous donne un don, c'est une nouvelle façon de penser. Et il nous dit dans Éphésiens 4, 23, 24, je reviens un petit peu en arrière, Éphésiens 4, 23 et 24, voici ce qu'il est dit. Le Seigneur nous exhorte, eu égard à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous ici maintenant, Dieu nous demande d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Autrement dit, il nous fait le don de changer notre façon de penser. Car si nous sommes chrétiens et que notre façon de penser ne change pas, même si nous avons la vie en nous, pas grand-chose va changer. C'est pourquoi il s'opère un changement profond dans notre façon de penser. Romains 12, voici ce que l'apôtre dit encore, les premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » Voyez-vous donc, c'est notre être tout entier qui est offert au Seigneur. « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, donc une adoration raisonnable. » Et ensuite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Pourquoi ? On doit être transformé dans notre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de changer dans notre façon de penser maintenant pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Bien souvent, les gens disent « Oh, faire la volonté de Dieu, Dieu est peut-être trop dur, il va me demander peut-être quelque chose qui sera trop difficile pour moi. » Oh, moi je ne voudrais pas faire ceci et cela. J'ai peur que Dieu me demande quelque chose de trop dur, trop difficile. Quelqu'un qui parle comme cela, c'est quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans ses pensées. Ce sont ses pensées à lui qui agissent et qui l'empêchent finalement de connaître la volonté de Dieu. Et il dit ici, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le verset, le mot dans le texte grec veut dire, soyez métamorphosés. Une façon de penser toute nouvelle va venir maintenant. Alléluia! Ça, c'est un don que Dieu nous donne. Et Dieu nous demande de changer notre façon de penser. Certains chrétiens, comme c'est Watchmani qui a dit ça une fois, certains chrétiens sont, comme Watchmani l'a dit, ont un cœur tout neuf, mais une vieille tête. Ils ont un cœur tout neuf, mais une vieille tête. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Ils voulaient dire qu'ils sont régénérés, le Saint-Esprit habite en eux, mais la tête pense toujours comme avant. On raisonne encore comme autrefois, dans nos pensées vaines et qui se dressaient contre Dieu. On raisonne comme avant. Mais Dieu nous dit, tu dois être transformé maintenant. Dieu te donne ce don. Il va se passer une transformation dans tes pensées. Alléluia. Et si tes pensées changent, ta vie changera complètement. Tu dois donc veiller à tes pensées. Et comment veiller à ces pensées? Comment connaître la volonté de Dieu? Alors, il y a maintenant un cinquième don que Dieu nous donne lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous sommes de nouvelles créatures. Le cinquième don, c'est Dieu nous donne une nouvelle nourriture à manger maintenant. Autrefois, on mangeait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, j'entends spirituellement parlant. On se nourrissait de toutes sortes de philosophies, de toutes sortes de pensées humaines qui étaient en opposition à la volonté de Dieu. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, nous devons avoir une autre nourriture, et cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. Regardez comme passage, notez 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2, voici ce que l'apôtre Pierre dit. Déjà 1 Pierre 2, 2, déjà un petit peu avant, au chapitre 1er, verset 23, il est dit, vous aimant ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia! Cette parole vivante, et cette parole qui dure pour toujours, c'est elle qui va être votre nourriture maintenant. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la folore de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc ça, c'est le chapitre précédent, 1 Pierre 1, verset 25. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et au verset chapitre 2, voici ce que Pierre dit. « Rejetant donc toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. » Voyez-vous, quand on se donne au Seigneur, on devient un enfant nouveau-né.
désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Donc ici, lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, Dieu nous donne une nouvelle nourriture. Et cette nourriture, c'est la Bible, la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Donc un chrétien, s'il veut vraiment grandir, comme il est dit ici, dans le salut, connaître le Seigneur comme il doit être connu, connaître sa volonté et le glorifier pleinement, ce chrétien a besoin de se nourrir de ce don qui est la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui ne se nourrit pas de ce don qui est la parole de Dieu sera un chrétien faible. Il faut se nourrir non seulement le dimanche matin entre nous, mais chaque jour. Si vous mangez seulement une fois par semaine, le dimanche matin, pour vos corps, est-ce que vous tiendrez le coup? Personne ne tiendrait le coup ici. Si vous faites un bon repas le dimanche matin, vous dites, ah voilà, dimanche, je vais faire un bon repas, et il y en aura assez pour toute la semaine. Est-ce que vous allez vous en sortir? Ça n'ira pas du tout. Et si vous êtes malade, et vous allez tomber malade, et vous allez attraper toutes sortes d'infections, de mauvaises choses. Il en est de même pour le chrétien. Le chrétien... Il doit se nourrir de la parole de Dieu, mais pas seulement le dimanche matin. Lorsque nous méditons ensemble, tous les jours, vous prenez votre repas, n'est-ce pas vrai? Pour nourrir vos corps. Et tous les jours, nous devons nourrir notre esprit, notre âme, de la manne céleste qui est la parole de Dieu. Alléluia! C'est votre nouvelle nourriture. Un chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu sera un chrétien faible spirituellement. Un chrétien qui... ne connaîtra vraiment jamais la volonté de Dieu. Ah, je ne sais pas ce que Dieu dit, je ne sais pas. Ils ne savent jamais ce que Dieu pense de ceci et de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Si tu veux savoir ce que Dieu pense de quelque chose, il faut lire la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour cela, mes amis. Pour cela. Sans la parole, moi je ne sais rien et vous ne savez rien. C'est dans la Bible que nous devons trouver la nourriture dont nous avons besoin pour discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, et pour grandir dans le salut. Montrez-moi un chrétien qui médite sa parole jour après jour, qui se nourrit de la Bible, et ce sera un chrétien fort spirituellement. Amen. Très fort spirituellement. C'est votre nourriture. Et vous savez, cette parole est extraordinaire. Elle peut vous transformer littéralement, parce que c'est une parole vivante et permanente. Les paroles des hommes n'ont pas la vie, vous êtes d'accord avec moi? Quelle est la parole d'un homme qui a changé quelqu'un? Personne. Non seulement les paroles d'hommes n'ont pas la vie, mais elles durent que pour un temps. Prenez des livres à grand succès. Bien souvent, j'écoute à la radio, voilà, le prix Goncourt, le prix tout cela. Voyez-vous, des livres, les hommes, des grands écrivains qui écrivent, mais... une année après, c'est fini déjà, on n'en parle déjà plus. Il y en a un autre qui vient. Ces prix-là ne sont pas décernés pour l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des paroles d'hommes qui durent un temps. Mais la parole de Dieu, elle nous a été donnée pour l'éternité. Alléluia! Et plus on se nourrit de cette parole, plus on a envie d'en être nourri. Mes amis, trop de chrétiens sont affamés spirituellement. Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Cette parole est vivante et permanente. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Moi, je le ressens parfois. Quand je n'ai pas assez nourri mon âme de la parole de Dieu, je végète un petit peu. Il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Mais quand la parole de Dieu est méditée, elle est acceptée, méditée régulièrement, il y a comme une force qui vient en vous. Alléluia! Cette parole, c'est la parole de Dieu et non des hommes. Retenons juste quelques points dans le psaume 119. C'est le plus long psaume de la Bible, le psaume 119. Et il ne parle pratiquement que de la parole de Dieu. À part deux ou trois versets, sauf erreur, tout est concentré sur la parole de Dieu. Le psaume 119. Vous voyez là les mérites de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Au verset 9, par exemple, 119, verset 9, j'ai mis quelques petits croix, je vais juste vous lire quelques versets. Au verset 9, 119. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Comment le jeune homme, la jeune fille, peut être conduit et rester pur dans ce monde souillé en obéissant à la parole de Dieu? Cette parole nous gardera de toute souillure, des souillures de ce monde. Amen.
Alléluia.
Au verset 11, il est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voyez-vous ce qu'elle fait ici, la parole? Elle nous empêche de pécher contre Dieu. Quand on lit la parole de Dieu et qu'on la serre dans notre cœur, eh bien, elle nous empêche de pécher. Elle nous empêche de faire des choses qui déshonorent Dieu. Moins nous lisons la Bible, plus nous péchons contre Dieu, dans nos pensées et dans nos paroles. Bien souvent, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Mais celui qui se nourrit de la parole de Dieu, voyez-vous, le psalmiste dit, « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Plus nous lisons, plus nous méditons cette parole, moins nous pécherons contre Dieu. Alléluia. Et plus nos vies lui seront agréables. Gloire au Seigneur. Et au verset 67, il est dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Le verset 67. Voyez-vous, la parole de Dieu est là pour nous éclairer et pour nous corriger. Sans la parole de Dieu, nous nous égarons. Mes amis, qui peut dire que ses pensées sont toutes justes? Personne. Nous sommes tous ennemis dans nos pensées, la Bible dit. Sans la parole, nous nous égarons. N'importe qui, moi le premier, nous nous égarons. C'est pourquoi il nous faut cette parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Bien souvent, nous pensons que par nous-mêmes, nous savons beaucoup de choses, alors que finalement, nous ne savons pas grand-chose. Quand nous sommes un peu trop sûrs de nous-mêmes, de nos idées, de nos pensées, Dieu permet des échecs pour nous dire « Ah, tu étais bien sûr de toi-même, voilà maintenant. Regarde un peu où tu vas avec tes idées, tes pensées, ta sagesse, ton intelligence, où tu vas? Regarde, tu es dans une impasse maintenant, il n'y a plus rien du tout. » Ah Seigneur, c'est vrai Seigneur. J'ai cru que je pouvais m'en sortir par moi-même. Non, et Dieu nous arrête. Et nous sommes dans une impasse. Nous sommes brisés. Et il en est bien ainsi. Amen. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais et maintenant j'observe ta parole. Alléluia. Nous aimons d'autant plus la parole de Dieu maintenant parce que c'est elle qui nous protégera. Gloire au Seigneur. Et ensuite au verset 92, il est dit, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » La parole de Dieu faisait les délices du psalmiste. Alléluia. Ces délices. Quelle promesse, quelle parole extraordinaire. Sinon, nous vivons une vie misérable, comme le dit le psalmiste. Gloire à Dieu. Et regardez ici encore ce qu'il est dit. Au verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » La parole de Dieu nous rend plus sages que nos ennemis. Dieu, il y a une sagesse dans cette parole qui fera que Dieu nous gardera, nous protégera. Nous en avons besoin, mes amis. Amen. Au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous conduit, qui nous montre le chemin qu'il faut suivre. Voyez-vous, c'est notre nourriture. La révélation, verset 130, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Cette parole, au verset 130, cette parole nous éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Montrez-moi quelqu'un le moins intelligent qui lise la parole de Dieu. Celui-là aura une sagesse que beaucoup n'ont pas. Amen. Tandis qu'il peut y avoir beaucoup de sages selon la sagesse de ce monde, mais s'ils ne lisent pas la Bible, ils peuvent être intelligents, mais manquent de sagesse. Ils peuvent être instruits, mais ils manquent totalement d'intelligence. Il ne faut pas confondre instruction et intelligence. On peut être instruit sans être intelligent. L'intelligence, elle, ne vient que de Dieu et que de la parole de Dieu. C'est une parole de consolation, je trouve. On peut ne pas être trop instruit, chacun d'entre nous, mais nous pouvons être intelligent et sage aux yeux de Dieu et ne pas nous laisser avoir par n'importe qui. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Mes amis, nous sommes simples. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'instructions, mais si nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu, nous ne serons jamais trompés. Alléluia. Et tu auras plus d'intelligence que quelqu'un qui a beaucoup d'instructions. On disait des premiers apôtres,
les grands théologiens qui étaient là, les pharisiens, quand Pierre et Jean prêchaient l'évangile, ils ont dit qu'ils étaient étonnés d'entendre parler Pierre, un pauvre pécheur. Et Jean aussi, c'était un pécheur. Quand ils s'adressaient à la multitude, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de leur bouche. Et ils ont dit, ils les reconnurent parce qu'ils avaient été avec Jésus. Quand quelqu'un est avec Jésus et accepte les paroles de Jésus, celui-là devient comme le Seigneur. Il étonne les autres. Alléluia. Les sages, les simples deviennent sages. N'est-ce pas merveilleux? Il y a beaucoup de paix. Verset 65. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Mes amis, cette Bible, cette parole de Dieu est une source de paix extraordinaire. Beaucoup sont tourmentés aujourd'hui parce qu'ils ne permettent pas à cette parole de pénétrer dans leur cœur, de décider de ce qu'ils doivent dire ou de ne pas dire, de décider de leurs actions. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Alléluia. Pas seulement pour ceux qui lisent ta loi, mais qui l'aiment. Cela ne suffit pas de la lire, la Bible. Il faut l'aimer et la mettre en pratique. Quelle paix! Paix extraordinaire! Alléluia! Et nous avons besoin plus que jamais de cette paix, n'est-ce pas vrai, aujourd'hui? Dans ce monde tourmenté, qui ne connaît pas la paix, cette paix vient du prince de la paix et de ceux qui obéissent à sa parole. Jésus a dit à ses disciples avant de partir, « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. » Dans ces temps de la fin, mes amis, on doit pouvoir voir la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Le non-chrétien, c'est celui qui est tourmenté. Il n'a pas de paix. Tandis que le vrai chrétien, il est dans une paix parfaite. Cette paix ne vient pas de son intelligence, de son grand savoir. Cette paix vient de ce qu'il a mis sa confiance dans la seule parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui ont une fausse paix, une fausse paix trompeuse. Quand vous voyez, par exemple, certains, dans, même certaines photos d'hindous et de bouddhistes et tout cela, apparemment, vous êtes un peu trompés, séduits même. Vous voyez qu'ils ont une certaine sérénité, n'est-ce pas vrai? On voit. Même un certain rayonnement, certains. On se dit, mais c'est pas possible. Ils sont dans l'erreur et ils ont cela. Voyez-vous, il y a une paix trompeuse. Cette paix ne vient pas de la parole de Dieu et du prince de la paix. Ça, c'est une paix trompeuse. Mais la vraie paix, c'est qu'une apparence, celle-là. C'est qu'une apparence. Dans le fond du cœur, il y a la crainte, il y a le tourment. Mais pour celui qui aime la loi de Dieu, il y a une paix parfaite. Alléluia. Dieu veut nous donner cette paix, mes amis. Quelles que soient les circonstances, cette paix sera un facteur d'équilibre dans notre vie, d'équilibre dans nos familles et d'équilibre dans l'Église aussi. Amen. J'en ai assez dit pour cette nourriture maintenant. Je vous ai donné quelques bons beefsteaks là. Alléluia. Quelques bons beefsteaks, il fallait les manger maintenant. Ce n'est pas le tout de dire, ah, il nous a donné de bons beefsteaks ce matin le pasteur. Mais si vous ne mangez pas les beefsteaks qu'on vous donne, ça ne sert à rien, vous allez mourir. C'est des bons beefsteaks, mais il fallait se nourrir. Vous allez à la maison maintenant, allez, ça y est. Ah, allez, ça je le crois, je le mets en pratique. Merci Seigneur, tu l'as dit, c'est ta parole. Mais Seigneur, les autres disent le contraire. Peu importe, toi tu l'as dit. Alléluia. On va un peu plus loin. J'en ai donné 12. On en est où? Alors, sixièmement, un sixième don, une nouvelle famille. Lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, Dieu nous donne une nouvelle famille. Nouvelle famille. C'est un don. Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes amis, lorsque Christ est venu en nous, nous sommes devenus enfants de Dieu et par cela, nous devenons membres de la famille de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus seuls. Nous retrouvons de nouveaux amis. Pourquoi? Parce que les anciens amis commencent à nous abandonner. Non seulement ils nous abandonnent eux, mais nous aussi nous les abandonnons. Ça ne veut pas dire que nous les délaissons et que nous ne les aimons pas, pas du tout. C'est parce que nous avons des intérêts différents. Amen. C'est pourquoi quand nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous entrons dans la famille de Dieu et nous avons de nouveaux amis. Et nous ne pouvons plus rester amis avec des gens qui se moquent de Dieu. Nous devons leur parler du Seigneur. Nous devons leur témoigner du Seigneur à ses anciens amis. Moi, c'était un peu comme ça avec mes anciens amis. Mais nous ne pouvons plus nous taire et qu'ils devinent si nous sommes chrétiens. Non, c'est fini ça.
Il ne doit pas deviner. Maintenant que nous sommes chrétiens, nous devons le dire. Écoute, mon ami, tu vois, on était amis, on jouait ensemble, on s'amusait ensemble, mais maintenant, c'est fini. Jésus est mon sauveur. Voilà. Si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, formidable, tu viens. Gloire à Dieu. Oh, tu as perdu la tête, toi. Allez. Laisse ton Jésus et on reste toujours ensemble, amis. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas rester ami avec quelqu'un en mettant Jésus de côté dans ta vie et dans cette communion avec lui, ce n'est pas possible. C'est une trahison. C'est pourquoi lorsque nous devenons membres de la famille de Dieu, nous sommes de nouveaux amis. Dieu nous donne de nouveaux amis. Et les anciens, nous devons bien faire attention. On doit leur témoigner. Et s'ils ne veulent pas du Seigneur, nous devons les laisser. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas les aimer ni les respecter, attention. Toujours plein de respect, toujours très digne. Mais on ne peut plus s'en faire des amis. On ne peut plus vivre amis avec eux. C'est impossible. Parce qu'ils auront une mauvaise influence sur nous. La Bible dit, dis-moi... Non, pas dis-moi. Là, j'allais dire quelque chose qui... Non. Voilà. Mais enfin, c'est une pensée. Je donne d'abord la pensée qui est valable et qui est confirmée bibliquement. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bon, mais là, il y a un texte biblique dans l'Épître aux Corinthiens qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, si nous restons encore amis avec des anciens amis qui ne veulent pas du Seigneur, alors à ce moment-là, nous allons commencer à perdre notre amour pour le Seigneur. Nous allons commencer à cause de ces amis, faire des compromis. Et nous ne pouvons pas. Et vous ne pouvez pas. Dieu vous a donné une nouvelle famille. C'est à cette nouvelle famille que nous devons nous attacher maintenant. Amen. Mais les autres, nous devons leur témoigner, bien sûr. Mais s'ils n'en veulent pas, nous devons nous en séparer. C'est important. Parce que beaucoup de chrétiens ne grandissent pas spirituellement à cause de cela. Ils ont encore des vieilles amitiés coupables. Des amis qui ont une mauvaise influence sur eux. Allez, viens boire un coup. Viens boire un coup. Ah ouais, d'accord. C'est un ami, ouais, on fait pas. Viens boire un coup. Allez, d'accord. Allez, bois un grand petit coup, un grand petit coup. D'accord. Allez, rebois encore un coup. Au bout de quelque temps, vous commencez à... L'autre, il a... Qui a eu la bonne influence sur l'autre? C'est l'ancien, c'est le vieil ami. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu vous donne de nouveaux amis. Et c'est pour cela que c'est merveilleux. Amen. De nouvelles familles. Nous devons veiller à cela, mes amis. On continue. Un nouvel amour. Dieu nous donne un nouvel amour quand il vient en nous. Un nouvel amour. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand Jésus vient dans notre cœur, il nous donne un nouvel amour. Il y a une grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. La différence fondamentale est celle-ci. L'amour dans le monde vit pour uniquement recevoir. Dans le monde, on vous aime si la personne peut recevoir de vous, voyez-vous, peut soutirer de vous. Par exemple, certains sont amis de personnes riches ou influentes uniquement parce qu'il y a les petits sous. Mais le jour où il n'y a plus de petits sous, au revoir, c'est terminé. Vous voyez, l'amour du monde, c'est ça. L'amour du monde est un amour égoïste, intéressé. Je t'aime parce que je peux recevoir de toi. Voilà. Mais l'amour de Dieu, c'est le contraire. L'amour de Dieu, c'est je ne vis plus pour recevoir, je vis pour donner. Dans l'amour divin, vous ne cherchez plus à recevoir. D'abord, vous cherchez à donner à l'autre. Vous vivez pour donner. Vous n'attendez plus rien de l'autre. Comme Christ habite en vous, vous donnez premièrement votre joie, votre amour, votre paix. Amen. Il n'y a plus ce marchandage. L'amour humain, c'est un marchandage terrible. Je t'aime si tu m'aimes. Si tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Si tu me fais un sourire, je te fais un sourire. Si tu m'invites pour manger, je t'inviterai pour manger, pas de problème. Mais si tu ne m'invites pas, je te laisse tomber. Si tu me fais la tête, je te fais la tête. C'est ça, c'est un amour conditionnel. C'est l'amour humain, n'est-ce pas vrai? Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi, pas de problème. Mais si tu me fais une crasse, eh ben, tu sais que ça ne va pas passer comme ça. Hein. Ça ne passera pas comme ça. Ça, c'est l'amour humain. Autant on vous a aimé, autant on peut vous détruire après et vous rejeter. C'est pour ça qu'on voit, même dans des familles, des personnes qui se sont aimées et ensuite se haïr totalement. Comment cela? Parce que c'est la manifestation d'un amour égoïste. C'était un amour humain. L'amour à philéo. Je t'aime si tu m'aimes, mais si tu ne m'aimes pas, terminé. Mais maintenant, un nouvel amour, l'amour de Dieu est en nous. Cet amour n'a plus le même raisonnement. Je t'aime même si tu ne m'aimes pas. Voilà comment l'amour de Dieu résonne. Je t'aime même si tu ne m'aimes pas. Je t'aime encore. Je t'aimerai. Alléluia. Je t'aime parce que je cherche ton intérêt et non mon intérêt. Alors certains, en entendant ça, vont dire, tiens, voilà, je pense que mon mari a bien entendu. Écoute bien, c'est juste pour toi. Ou ma petite femme, écoute ça, c'est juste pour toi. Non, 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 c'est pour tous les deux. Amen. S'il n'y en a qu'un qui fait cela, ça ne marchera pas. Tous les deux doivent donner sans rien attendre. Alléluia. Et c'est le ciel sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et parmi les chrétiens, c'est la même chose. Là, ce frère-là, je pense qu'il a entendu quelque chose. Hein, parce que toujours, il me demande quelque chose et puis jamais. Fait, hein? Non, 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 c'est pour tous. Tous. On ne vit pas pour recevoir, on vit pour donner. Amen. Pour donner. On n'attend plus rien des uns et des autres. On vient, on apporte la joie, la paix qu'on a dans le cœur. Alléluia. Ça, c'est l'amour divin. Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables, n'est-ce pas vrai? Alors que nous étions loin de lui, Dieu nous a aimés. Et l'amour divin, c'est cela. L'amour divin fait toujours le premier pas. Fait toujours le premier pas. Parce qu'il pense à l'autre avant de penser à soi-même. L'amour divin est désintéressé complètement. C'est un amour qui se donne à l'autre, qui se sacrifie pour l'autre et qui cherche d'abord l'intérêt de l'autre. Amen. Et c'est ainsi que soi-même, on vit merveilleusement. Je vais plus loin. Une nouvelle puissance. Quand Jésus-Christ est venu en nous, il a fait don d'une nouvelle puissance. 1 Jean chapitre 4, verset 4. L'apôtre dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire au Seigneur. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surnant sur vous et vous serez mes témoins. Quelqu'un qui est une nouvelle créature, Dieu lui fait don d'une nouvelle puissance. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, que le diable, que tous les mauvais esprits, que qui que ce soit. Celui qui est en vous est plus grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez reçu ce don-là. C'est là. 9e don. Une nouvelle autorité. Dieu nous donne une nouvelle autorité. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Une nouvelle autorité, mes amis. Maintenant que tu es une nouvelle créature, Dieu te donne aussi une nouvelle autorité. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Et tu agis en son nom. Dieu t'a donné le pouvoir sur le diable et ses démons. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Quelle belle promesse. Mes amis, c'est parce que nous avons reçu une nouvelle autorité. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, j'aime bien voir le diable fuir loin de moi. Amen. Quand quelqu'un fuit loin de vous, c'est un spectacle très, très, un très beau spectacle. C'est quelqu'un qui est complètement paniqué, qui a peur de vous. La Bible nous révèle que c'est le diable qui a peur d'un vrai chrétien et non pas le chrétien qui doit avoir peur du diable. C'était le moment de dire alléluia. Alléluia. Vous avez manqué des occasions de dire alléluia ce matin. Gloire au Seigneur. Une nouvelle autorité. Le vrai chrétien a reçu autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand vous sentez qu'il y a là l'ennemi qui rôde, au nom de Jésus, exercez votre autorité. Dites, Satan, tu es lié, va-t'en de cette maison, va-t'en de ma vie, va-t'en de mes enfants, va-t'en de mon travail. Jésus est le vainqueur. Alléluia. Une nouvelle autorité. 10e, une nouvelle passion. Quand Jésus vient dans notre cœur, nous avons une nouvelle passion. Et cette passion, c'est de sauver des âmes. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins. Et le mot dans grec « témoin » veut dire « martyr ». Vous serez mes martyrs. Les premiers chrétiens ont été des martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé Jésus. Partout où ils allaient, ils n'avaient pas honte. Alléluia. Dieu nous donne une nouvelle passion, la passion des âmes. Un chrétien victorieux, c'est un chrétien qui parle des âmes autour de lui. Amen. Qu'un chrétien ne parle jamais du Seigneur autour de lui, ce sera un chrétien faible. Mes amis, C'est là que vous verrez Dieu vous garder, Dieu vous soutenir, Dieu vous donner la sagesse qu'il faut lorsque vous parlez. Lorsque vous n'avez pas honte de Jésus et que vous parlez, l'Esprit de Dieu viendra à votre secours. Vous serez étonné de voir ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire de grands miracles au travers de votre vie lorsqu'il y a cette compassion pour les âmes. Car la compassion agit toujours. Elle précède toujours la puissance de Dieu. Si vous voulez que la puissance de Dieu se manifeste, il faut d'abord y amener la compassion. Quand la compassion est là, la puissance de Dieu suivra toujours. Mais là où il n'y a pas de compassion ou de passion pour les âmes, la puissance de Dieu ne suivra pas. Une nouvelle passion. Amen. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous a donné. Onzièmement, une nouvelle destinée. On a une destinée nouvelle. Quelle est cette destinée ? Ressembler à Jésus-Christ. Romains 8, 28. Une nouvelle destinée. Vous avez un nouveau destin. Quel est votre destin ? Quel est le but de votre vie ? Romains 8, 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés son nom, son destin, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Vous êtes prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Voilà votre destinée. Tout dans votre vie doit être fait pour ressembler à Jésus. Et pour terminer, une nouvelle espérance. Une nouvelle espérance, c'est son prochain retour. Dieu nous donne une nouvelle espérance. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Nous attendons ce retour. L'apôtre dit, nous ne sommes pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Alléluia. Jésus revient. Gloire au Seigneur. Voilà ce que nous avons lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Une nouvelle espérance. Alléluia. Le monde peut s'écrouler, mais l'espérance vivante est devant nous. Jésus revient. Soyons prêts pour aller à sa rencontre. Amen. Amen.